Bonsoir. Situation économique en RDC. La croissance économique a grimpé à 8,6% en 2022, dans la continuité de la forte dynamique enregistrée en 2021 où il était à 6,2%. C'est ce qu'indique une analyse de la Banque mondiale sur l'avenir de l'Afrique. D'après la Banque mondiale, la croissance de la RDC a été portée par le secteur minier en raison de l'augmentation des capacités de production du cuivre et du cobalt et de la forte demande mondiale. Toutefois, la croissance en dehors de ces secteurs a été modeste, souligne la Banque mondiale. Selon la Banque mondiale, les perspectives à moyen terme pour la RDC sont favorables. Les estimations prévoient une croissance de 7,5% en 2025. Cependant, son économie reste vulnérable aux fluctuations des prix des produits de base et aux performances de croissance de ses principaux partenaires commerciaux, elle-même exposée au risque des perturbations liées aux conflits géopolitiques. Quelle analyse faire de la croissance économique de la RDC en 2022 et que faire pour maintenir cette croissance pour les prochaines années? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mardi 25 avril 2023. Participe au débat professeur Godin Poi, professeur à l'Université de Kinshasa et à l'Institut supérieur de commerce. Il est spécialiste en fiscalité. Professeur Godin Poi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Florimond Mouteba, président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Michel Bissa, qui est aussi dans ce débat avec nous. Il est professeur à l'Université de Kinshasa, secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance. C'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, bonsoir.
Bonsoir, madame, et bonsoir au professeur.
À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la sonde 2.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokati.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiokapi.net.
8,6%, c'est le taux de croissance économique réalisé par la RDC en 2022, une performance saluée par la Banque mondiale dans son analyse sur l'avenir de l'Afrique. Cette croissance a été portée par les secteurs miniers en raison de l'augmentation des capacités de production du cuivre et du cobalt et de la force des mondes mondiales. Toutefois, la croissance en dehors de ces secteurs a été modeste, souligne la Banque mondiale. Lems Kamonia, analyste économique, estime qu'il faut une redistribution effective des effets de cette croissance pour qu'elle soit ressentie par la population. On l'écoute au micro de Cynthia Bachizi.
Si aujourd'hui la croissance économique est autour de 8%, cela signifie que c'est l'accroissement de notre produit intérieur brut. Donc, le produit intérieur brut de la RDC, généralement dont la croissance est induite par l'accroissement de la production au niveau du secteur minier. Mais comme on les nuance souvent, les économistes, lorsqu'ils parlent aujourd'hui, ils définissent la croissance économique, ils ne veulent pas seulement se limiter à cette augmentation quantitative de la production. Ils aimeraient que cette augmentation de la production se traduise également par l'amélioration du standing de vie de la production.
Il faut que cela se vive dans l'assiette.
Il faut que cela se vive dans l'assiette. Il faut qu'il y ait une redistribution des effets de la croissance. Comment ces moyens financiers sont réinjectés dans les secteurs économiques intérieurs, dans les investissements, pour permettre qu'on crée des opportunités d'emploi direct ou indirect, ou des investissements qui permettent à une frange importante de la population d'avoir aussi un revenu, de consommer et de s'en qu'il est aussi en train de jouir ou de bénéficier des effets de cette croissance. Si vous n'arrivez pas à réaliser ces caps-là, là les gens ne sentiront pas effectivement qu'il y a croissance économique.
Professeur Godempoi, professeur à l'Université de Kinshasa et l'Institut supérieur de commerce, vous êtes spécialiste en fiscalité. Professeur, 8,6%, c'est le taux de croissance économique réalisé par la RDC en 2022. C'est dans la continuité de la forte dynamique enregistrée en 2021, où il était de 6,2%. Quelle analyse vous faites, professeur, de cette croissance?
D'abord, je voudrais saluer tous les intervenants, en l'occurrence le professeur Floliver qui est un grand frère pour moi, et j'ai salué également le professeur Bissa qui fait la fierté de la jeunesse montante dans notre métier. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que l'économie fonctionne sur base de principes, notamment celui des avantages comparatifs. C'est ainsi que vous allez constater que nous sommes dotés de plusieurs ressources minières dont le potentiel est estimé aujourd'hui à 24 000 milliards de dollars. Alors, il s'est passé quelque chose entre 2018 et aujourd'hui. En 2018, la production qu'il peut faire était autour d'un million de tonnes. L'année passée, nous l'avons clôturé avec 2 360 000 tonnes. Donc, vous comprenez que le secteur minier se porte bien à la République démocratique du Congo et tire toute la croissance économique de notre pays.
Le secteur minier se porte bien en RDC, mais selon certaines projections, en 2023, ce secteur risque de voir sa production baisser.
Non, ça dépend de l'environnement international. En fait, l'économie internationale ces jours est plombée par plusieurs facteurs, notamment climatiques, sanitaires et géopolitiques. Tant que s'il n'est pas international, il y aura une stabilisation, il y a toujours moyen d'espérer, tout simplement parce que, comme vous le savez, la République démocratique du Congo a des grands partenaires, c'est l'Union européenne et la Chine. La Chine vient de sortir d'une mauvaise session de sa crise liée à la pandémie de Covid. Elle va se remettre au travail. Je crois sincèrement que les résultats seront également bons en 2023.
Professeur Godempoi, vous avez suivi l'EMS Kamwanya qui a intervenu tout à l'heure dans cette émission. Alors, il estime qu'il faut une redistribution effective des effets de cette croissance pour qu'elle soit ressentie par la population. Parce qu'il est difficile de comprendre ce paradoxe entre la croissance économique et le vécu quotidien de la population qui croupit comme même dans la misère.
Il y a des explications scientifiques par rapport à cela. La première précision qu'il faut apporter ici, c'est que jamais une croissance découlant du secteur primaire ne peut résoudre les problèmes de la communauté nationale de manière immédiate. Donc celle la croissance inclusive, c'est-à-dire que celle du deuxième le secteur peut accélérer les effets de cette redistribution. Mais ce que les gens doivent noter, c'est qu'il y a bien des progrès qui ont été faits sur le plan économique, sur le plan macroéconomique, mais qui ont rencontré des difficultés sociologiques. C'est ainsi que lorsque vous suivez la vie de la République démocratique du Congo, vous allez remarquer, par exemple, que au niveau de ceux qui travaillent, nous savons que c'est encore insuffisant, mais on doit le souligner. Les salaires ont été augmentés, bien sûr, à part nous, les professeurs de l'université, mais de manière générale, les salaires ont été augmentés d'au moins 30%. Ce sont les effets de la croissance. Lorsque vous suivez la vie économique internationale, aujourd'hui, les produits pétroliers coûtent cher dans tous les pays du monde. Donc, la République démocratique du Congo fait partie de ces pays qui résistent encore, tout simplement parce qu'il y a une fiscalité négative, c'est-à-dire lorsque nous achetons aujourd'hui les carburants à la pompe, ce carburant est subventionné par la République démocratique du Congo. Mais la population a raison, elle ne peut pas ressentir ces effets directement, parce que j'entends souvent les gens qui parlent de la cherté de la vie chez nous, mais nous sommes en train de vivre une inflation importée, et cette inflation est généralisée. Dans l'eurozone, elle est à 6,9%, aux États-Unis, elle est à 5%, au Ghana, il est à 49%. Au Niger, c'est à 24%. Au Sénégal, c'est 9,5%. Et la République démocratique du Congo, c'est 5%. Et comme si cela ne nécessitait pas, la guerre dans l'Est est budgétivore. Mais qu'à cela ne tienne, ce qu'il faut retenir, c'est que seule la croissance inclusive peut produire des effets qu'on peut ressentir immédiatement par la population.
Vous avez parlé de l'augmentation des salaires d'au moins 30%, mais aujourd'hui, les fonctionnaires accusent quand même 2 mois d'impaiement.
Oui, là nous devons tous les reconnaître. Mais les raisons fondamentales, les raisons fondamentales et les vraies raisons qui ont milité en défaveur de nous, des fonctionnaires, de nous agents de l'État, voudrais-je dire, c'est notamment la guerre dans l'est du pays. Toutes ces forces régionales qui viennent sont prises en charge par la République démocratique du Congo. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons une échéance politique très importante cette année. C'est notamment les élections de décembre. Il fallait des défenses pour la CENI et il y a eu également plusieurs catastrophes. Donc lorsque vous mettez tous ces éléments en balance, ça justifie en grande partie cette irrégularité des rémunérations que nous dénonçons tous. Mais ça, ce sont des raisons objectives. Mais les conseils que je peux donner au gouvernement, c'est que si jamais cette année on fait des excédents budgétaires comme la fois passée, qu'on ne puisse pas les dépenser sans collectif budgétaire, ça va nous permettre de rationaliser les dépenses publiques.
Professeur Godem Pouy, il y a un auditeur, David, depuis la ville de Bounia, dans la province de l'Ituri, qui dit ceci, ce sont des bonnes avancées significatives et salutaires, mais je doute toujours de son implication sur le social. Le social souffre encore énormément, il y a un faible investissement dans les autres secteurs, à part le secteur minier, et selon le rapport, ce sont les minerais qui, suite à l'arrivée des investisseurs en vague, qui ont aidé l'économie congolaise à faire cette croissance. Si on n'avait pas les minerais, on serait au plus bas niveau.
Merci beaucoup. Les compatriotes n'ont pas tort, mais l'économie fonctionne sur base de principes. En économie, il y a ce qu'on appelle les roues de la croissance économique. Et ces roues, c'est notamment les ressources naturelles. Je le disais d'entrée déjà que chaque État a son avantage comparatif. Donc nous, notre avantage comparatif, c'est le secteur minier. Mais si les gens ne ressentent pas immédiatement les effets de cette croissance selon leurs attentes, c'est tout simplement parce qu'il s'agit encore d'une croissance tirée par le secteur primaire. C'est pour cela que nous devons travailler davantage pour avoir une croissance tirée par le secteur secondaire, c'est-à-dire la manufacture. À ce moment-là, ça va se faire et ressentir vite. Mais seulement ce que les gens doivent noter de manière objective. Parce que en science, ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Les faits attestent qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais les faits économiques attestent que nous avançons dans la bonne direction. Mais malheureusement, l'environnement climatique, sanitaire, géopolitique ne nous a pas été favorable.
Professeur Florimond Mouteba, vous êtes président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle. Votre lecture sur la croissance économique de la RDC en 2022, une croissance qui a grimpé à 8,6%, alors qu'en 2021, on est à 6,2.
Oui, madame, j'en profite pour saluer mon cher petit frère, le professeur Godet, avec qui nous l'avons déjà eu à débattre plusieurs fois. Et je salue également aussi les autres débatteurs. Mais, madame, la lecture est celle-ci. C'est que, vous savez que, à l'époque du maréchal Mobutu, nous avons connu des taux de croissance parfois beaucoup plus élevés que celui-ci. Malheureusement, ça n'a pas débouché sur le développement de la RDC. Pourquoi? Parce que la croissance du secteur minier, c'est bien, mais la croissance du secteur minier fait que le taux de croissance qu'on présente est une croissance qui n'est pas inclusive. Je crois que le professeur Ngoyi l'a dit aussi et les autres. Elle n'est pas inclusive. Elle n'est pas inclusive parce que les mines restent pour nous jusqu'à aujourd'hui la seule base de notre économie, la source de financement d'approvisionnement du pays en matière première, des biens de première nécessité, équipement, la garantie de son endettement extérieur et du service de la dette, la source la plus importante de ses recettes publiques. Vous comprenez que dès que ce secteur est au ralenti par rapport à quelques secousses qui peuvent venir de l'extérieur, nous sommes complètement désorientés et donc ça a directement sur le pays des conséquences vraiment incalculables. Mais ce qui fait que notre économie reste une économie globalement extravertie, vraiment extravertie. Et les conséquences de cette extraversion pour les pays et pour son peuple, la première chose c'est la disparité trop grande entre les revenus entre autres tirés du secteur minier et les salaires des gens. Comprenez? Prenons par exemple, quand j'entends par revenu, je prends l'exemple de la scie commune, pour ne prendre que celle-là. Vous avez vu que dans l'accord qui nous liait à la scie commune, d'après les études faites, l'enquête faite par l'IGF, au total, 93 milliards de dollars de minerais étaient mis en jeu, et finalement, 3 milliards prévus pour les investissements dans les infrastructures, etc. Et quand on fait les calculs, les Chinois auront dans cette opération gagné plus de 17 milliards de dollars. Et la RDC, on a parlé de 822 millions, mais en réalité, quand on fait les calculs, en tenant compte des surfacturations, etc., on arrivait, selon l'IGF, à peu près dans les 350 millions. Vous voyez, madame, les revenus reçus et engrangés par les Chinois, 17 milliards, et le Congo n'a profité de ces minerais dans toutes ces, durant ces 15 années qu'ils étaient mis en jeu pour faire les trocs, minerais contre infrastructures. La RDC n'a au mieux tiré que 350 millions. Maintenant, vous comprenez que, oui, les minerais, la rente minière peut être très importante pour que nous puissions diversifier notre économie. Parce que ça, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable de faire en sorte que la croissance ne vienne pas que du secteur minier, qu'on ait les moyens d'investir dans l'agriculture, qu'on ait le moyen d'aller dans l'industrialisation du pays. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les salaires sont au plus bas, comment vous allez industrialiser le pays? Comment vous allez fabriquer des télévisions, des véhicules, des ceci et cela, de tous les biens de consommation de masse? Comment vous allez y arriver si les gens ne sont même pas capables d'acheter donc cette production industrielle-là? Donc il est nécessaire que la croissance, si il faut vraiment parler d'une croissance qui provoque le développement, incluse, elle doit non seulement n'être pas fondée que sur les minerais, mais faire en sorte que la rente minière soit vraiment bien surveillée, bien contrôlée, de sorte qu'on n'aboutisse pas à des cas du genre il n'y a pas eu que la scie commune, il y en a eu d'autres, je ne vais pas les mêler tout de suite à ce débat, mais il y a eu d'autres pillages de nos ressources naturelles qui font que la rente minière dont nous devrions donc profiter, elle nous échappe, et quelques revenus qui sont quand même captés, ils servent à quoi? Ils servent un peu à un train de vie de l'État et qui est très très élevé. Vous savez, je ne sais pas si c'est vrai, mais je viens d'apprendre, j'ai appris quelques jours qu'il y avait Monsieur Bilomba, je crois, dans son hydro, je crois que ça s'appelle, qui était en discussion avec ses administrateurs parce que ceux-là voulaient avoir par mois 30 000 dollars par mois comme salaire, alors qu'ils n'avaient qu'en ce moment-là 6 000. Et ça provoquait le rejet par ce conseil d'administration de M. Bilomba, qui lui voulait, en quelque sorte, ne voulait pas que le train de vie du conseil d'administration passe du simple à qu'il soit doublé 5 fois. Et je vois ce matin, en plus j'ai appris aussi qu'il y a un décret qui est au niveau du Premier ministre qui pourrait sortir, qui fait pratiquement des administrateurs, des fonctionnaires, avec des salaires allant de 10 000 à 20 000 dollars par mois, ainsi de suite. Vous voyez, madame, c'est ça qui ne va pas. D'un côté, les revenus miniers sont pillés par les fameux investisseurs, et ce n'est pas le professeur Godet qui va me contredire là-dessus, ils sont pillés, et de l'autre côté, le peu qui reste est également, va dans des rémunérations, dans des consommations folles, n'est-ce pas, des revenus qui auraient pu donc bénéficier à tous.
Un problème voilà de gouvernance, professeur Florimond Mouteba.
Oui.
Je dis, il y a un problème de gouvernance aussi pour...
Oui, il y a un problème de gouvernance. Aujourd'hui, madame, qu'est-ce que nous constatons quand nous disons qu'il n'y a pas une crédibilité? Il y a beaucoup de... Par exemple, les problèmes sociaux sont énormes, n'est-ce pas? Sont énormes. L'exode rural des jeunes, le vieillissement des campagnes, l'urbanisation insuffisante, l'insuffisance des services sociaux, chômage, sous-emploi, malnutrition, logement insalubre, n'est-ce pas, maladies endémiques, etc. Madame, la dépendance financière et technologique de l'extérieur a raison justement du rôle joué par ces investisseurs-là dans l'exploitation des ressources naturelles, donc qui sont des clients marchés extérieurs, ainsi de suite. Donc vous voyez que ça ne provoque pas le développement, au contraire. Ça ne provoque pas le développement parce que cette gouvernance-là, déjà du secteur minier, madame, rappelez-vous de la Cominière, où la ministre du portefeuille a vendu pour un vil prix, n'est-ce pas, des gisements, donc des actifs miniers, dont la valeur réelle était de 150 millions, elle a vendu ça, elle a bradé à 30 millions. Mais ce qui est encore dommage, c'est qu'on l'a maintenu même dans le gouvernement après le remaniement. Donc, vous voyez, madame, il y a un problème de gouvernance du secteur minier. S'il est bien gouverné, la rente minière, et là, la rente minière peut être maîtrisée, maîtrisable, et cette rente minière pourra servir à diversifier. Vous voyez, madame, par exemple, dans le secteur des petites et moyennes entreprises, quand vous allez ailleurs dans d'autres pays du monde, la base de l'économie, ce sont ces PME. Et aujourd'hui, combien nous sommes à participer à cette croissance dont on parle? Au maximum, nous prenons la base de qui sont les contribuables aujourd'hui au Congo. On n'est pas plus de 200 millions.
Mais si.
200 000, pardon. Excusez-moi. Pas plus de 200 000. Ça aussi, ça démontre qui participe à cette croissance.
Merci.
Pas plus de 200 000 personnes. Donc, vous voyez, donc, oui, les secteurs miniers peuvent nous aider. Et là, je le jette très bien, le Possemboï, ça peut nous aider. Mais oui, à condition que la gouvernance s'améliore, à condition que particulièrement la gouvernance du secteur minier s'améliore, parce que jusque-là, il n'y a que scandale, scandale sur scandale.
Professeur Michel Bissa, professeur à l'Université de Kinshasa, vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance. C'est un laboratoire de recherche en sciences sociales. 8,6%, c'est la croissance économique de la RDC en 2022. Est-ce que cette croissance signifie que l'économie congolaise se porte bien?
Merci beaucoup, madame. Je commence aussi par saluer mes deux prédécesseurs qui sont mes aînés. Et j'ai fait mienne toutes les affirmations et observations que j'ai entendues aussi bien du professeur Godin Poï que du professeur Floribert. Si vous le permettez, je vais intervenir d'abord pour préciser quelques faits autour de 6 points. Je pourrais également émettre quelques critiques dans 4 points et puis vous suggérer quelques recommandations. Et au niveau des faits, d'abord, il faudrait savoir que la croissance dont on parle a été évoqué dans les conclusions préliminaires des missionnaires du FMI. Cela ne correspond pas nécessairement à ceux du conseil d'administration du FMI. C'est important que les téléspectateurs le sachent parce que cette mission, d'habitude, quand ils vont dans tous les pays, ils peuvent annoncer ce qu'ils annoncent, mais le conseil d'administration peut avoir un point de vue contraire. La mission dont on parle aujourd'hui au mois d'avril a eu lieu chez nous, c'était du 8 au 14 février 2023, mais concerne l'année 2022, et c'est là où on parle de cette hausse de 8,6% pour l'année 2022, pour le secteur du cuivre et du cobalt. Vous constatez bien, madame, que d'autres produits comme le coltan et l'or sont absents. Évidemment, cela est dit par rapport à la conjoncture sécuritaire dans notre pays. Et là, je suis totalement d'accord avec le professeur Godin Poï lorsqu'il fustige l'absence d'une croissance inclusive. Je vais y revenir. Mais il faut noter aussi que ces annonces du FMI sont en fait devenues des faits anodins et habituels.
Alors, on parle de la Banque mondiale.
Des pays d'Afrique, oui, madame.
On parle de la Banque mondiale.
Oui, de la Banque mondiale. Parce que quand vous regardez la Banque mondiale, déjà en 2013, ils évoquaient presque 5%, en 2014, 5,5%. Et puis le professeur de l'OGLEP vous a dit tout à l'heure que dans d'autres pays, la Banque mondiale et sa sœur et son frère, le FMI, ont annoncé parfois des taux supérieurs aux nôtres, mais ce qui n'ont pas conduit au niveau qualitatif à être ressenti dans la vie ou dans le développement global du pays. Et puis, on vous a parlé de perspectives 2023, mais il faut aussi savoir, madame, que l'escalade des conflits armés à l'est de notre pays, l'incertitude propre à une année électorale, la corruption généralisée dans le pays et la surconsommation financière des institutions politiques sont des facteurs qui vont aggraver déjà le fait que cette croissance ne se limite qu'au secteur primaire. Au secteur de l'extraction, il n'y a pas la transformation. Et puis, on a parlé ici d'une économie extravertie par rapport à chez nous. C'est pour vous dire que cette croissance n'est ni élevée en réalité, ni durable et ni inclusive. Estimée à 8,6%, comme on vous l'a dit ici, une production minière plus forte qu'anticipée, c'est vrai. Pour ça, il faut féliciter les efforts, notamment de l'IGF, je pense, mais également de ceux qui ont pu intervenir par rapport à cela. Mais de l'autre côté, l'inflation a atteint 13,1% fin 2022, à raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, de l'énergie et même des transports. Le professeur Godet a parlé du salaire, le professeur Godet, oui. Mais il a bien fait de mentionner, par exemple, le secteur d'enseignement supérieur. Là, j'ai des données. Lorsque moi, j'ai fini ma thèse, quand on m'a payé mon premier salaire, en 2017, je suis passé à la banque, j'ai retiré 2 000 $ cash en transformant mon salaire en francs congolais en dollars. Aujourd'hui, on peut parler de l'augmentation, mais quand je passe à la banque et que je dois retirer en dollars américains, c'est 1 100 $ américains. Vous voyez que on peut bien parler de l'accroissement, de la croissance, mais il faut également regarder les termes d'échange et les taux d'échange pour comprendre qu'en réalité, ça ne peut pas se sentir dans le vécu quotidien des Congolais.
Surtout avec la dépréciation de la monnaie locale.
Oui, avec la dépréciation de la monnaie locale, avec les prix, en réalité, nous devons quitter une croissance quantitative des chiffres exclusivement pour regarder également l'aspect sociologique de cette croissance-là. La Banque centrale du Congo a déclaré des réserves internationales brutes de 4,6 milliards de dollars, environ 300 millions de dollars de plus que projeté auparavant. Mais on estime aussi que le solde budgétaire global s'est détérioré en 2022 en raison de l'augmentation des dépenses liées à la situation sécuritaire et au remboursement d'arriérés. Mais vous savez également, lorsque on rembourse ces arriérés, il y a un sérieux problème de la gouvernance. D'où est-ce qu'on peut se projeter en termes de l'avenir pour 2023? Vous le savez, madame, que 2023 et 2024 sera aussi l'année des mouvements du personnel politique et d'appoint des institutions politiques, avec d'exorbitantes frais d'entrée et de sortie des cabinets. Chaque fois quand il y a un remaniement du gouvernement, chaque fois quand il y a élection, c'est-à-dire que ceux qui sont là, et c'est les plus grands consommateurs du budget et donc de la croissance, vont récupérer tous les fonds. Et donc, en réalité, le surplus de ce qui est appelé comme croissance aujourd'hui ne sert qu'à la consommation des institutions politiques. Évidemment, il y a aussi les frais électoraux et un tout petit peu les frais liés à la sécurité. Le professeur Godin Poy vous a dit tout à l'heure que toutes les forces armées qui viennent dans le cadre de l'East African Community, ainsi de suite, c'est à la charge du contribuable congolais. Donc, cette croissance aura un impact zéro dans le vécu populaire et dans la qualité de la vie et des populations.
Professeur Michel Bissat,
quelles sont les critiques? Oui, madame.
Alors, je vais vous redonner la parole, juste le temps pour nous de prendre ces auditeurs qui appellent sur le standard. On va prendre Un auditeur qui appelle depuis Kinshasa, qui va donner son point de vue par rapport au sujet de ce soir, et puis on revient vers vous.
Japheth Eunga depuis la ville de Kinshasa. En se basant seulement sur le secteur minier, l'économie de la RDC va rester toujours statique. D'où il faudrait diversifier les secteurs tout en quittant le secteur minier vers le secteur agricole. À mon avis, l'augmentation de l'économie en 2022 était une augmentation théorique car la vie sociale des Congolais se dégrade de plus en plus.
Professeur Michel Bissard.
Oui, madame, il a totalement raison. C'est basique dans les sciences de l'économie politique. Il faut diversifier et il faut aller aussi vers la transformation locale. C'est ce que le professeur Godin peut essayer de dire tout à l'heure quand il a dit il faut aussi le secteur secondaire pour venir en appui à cette croissance. D'où, madame, vous voyez que la croissance actuelle dont on parle contraste avec la pauvreté généralisée des ménages. Il faut migrer vers la croissance pauvre et la croissance inclusive qui a été évoquée ici. Il faut également réduire la surconsommation des institutions politiques et la sous-estimation des secteurs sociaux. Aujourd'hui, on regarde la santé, l'enseignement, l'éducation, tout ce qui est technique et qui devrait conduire à une croissance pauvre et marginalisée au profit des coûts de vie des institutions. Mais aussi les flux financiers illicites. Vous savez, madame, que le président Thabo Mbeki vient à Kinshasa dans ce cadre. C'est parce qu'ils ont constaté une corruption à outrance et des mouvements financiers qui vont vers leur pays, notamment l'Afrique du Sud et ailleurs. Mais aussi la Banque centrale du Congo l'a déclaré il n'y a pas longtemps, il y a baisse de l'indice de confiance des chefs d'entreprise qui atteste aujourd'hui la crise de confiance aussi bien dans l'industrie manufacturière que dans l'industrie extractive, mais même dans le secteur de la construction. Et ça, ce sont les données du mois d'août dernier, où l'indice de confiance est passé de 16% en juillet à 15%. Cela montre qu'une telle croissance ou une telle annonce de croissance, en réalité, est totalement éphémère parce qu'une baisse de 0,3% en termes de confiance des entrepreneurs, des investisseurs, présage quelque chose de très mal dans un contexte de 2023.
Merci.
Et puis, madame, ces chiffres, c'est le baromètre de la conjoncture économique de la Banque centrale qui l'a donné, ce n'est pas moi.
Professeur Godin Mpoui, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi dans la province du Lualaba.
Patrick Mbouli, Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Nous saluons la croissance économique en Afrique en général et en RDC en particulier, observée par la Banque mondiale. Mais ce qui est difficile de comprendre, c'est le paradoxe entre la croissance économique et le vécu quotidien de la population africaine. Car certaines organisations internationales donnent des chiffres effroyables sur la famine qui frappe le continent, plus particulièrement la situation humanitaire gravissime en RDC. Comment corroborer la croissance à la situation socio-économique précaire que plusieurs pays africains. Je pense que ces théories et statistiques doivent raconter la vraie réalité que traverse le continent, plus particulièrement la RDC.
Alors, ces théories et statistiques sont loin de rencontrer la vraie réalité que traverse le continent, plus particulièrement la RDC. Professeur Godin Mpoui.
Madame, la première précision que je voulais apporter ici, c'est que c'est le quantitatif qui produit le qualitatif, car de la quantité sortira la qualité. Il faut que les gens comprennent. Et là, je salue la grande intelligence de tous les intervenants, de tous mes co-débatteurs, avec une mention particulière pour mon grand frère Floribert et mon ami personnel, le professeur Bissa. Donc, l'économie fonctionne sur base des principes. La croissance économique a toujours eu des répercussions sociologiques. Mais les contextes dans lesquels laquelle croissance s'opère fait que l'environnement est développementilicide. Il y a la guerre qui absorbe tout, il y a l'inflation importée, je cite là-dessus parce que c'est cela même qui explique le flottement de la monnaie. Donc, s'il n'y avait pas cette croissance, la situation aurait été catastrophique. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que comme j'étais en train de le dire, en économie, nous avons le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Donc, la particularité de la croissance inclusive, c'est qu'elle fait travailler la population et la population en tire profit directement. Et là, je suis d'accord avec mon collègue Bissa, lorsqu'il disait que nous devons passer à la transformation. C'est là où on passe à la manufacture. Mais cela ne se fait pas de manière robotique. J'ai suivi même après le remaniement actuel, j'ai suivi un ministre qui disait qu'il va diversifier l'économie. Je me suis dit que celui-ci ne connaît pas l'économie congolaise. Il y a deux obstacles majeurs à la diversification de la production en République démocratique du Congo. Le premier obstacle, c'est le déficit énergétique. On n'industrialise pas sans un courant stable. Le deuxième élément, c'est qu'on ne fait pas des investissements avec l'argent de son salaire. Il faut un support bancaire. C'est ainsi que vous aurez remarqué qu'entre 1969 et 1972, s'il y a eu une flopée de sociétés qui étaient créées, c'est tout simplement parce que en 1969, nous avons le premier code des investissements très libéral, et en 1970, on avait créé la SOFIDE pour accompagner les investisseurs. Donc, si quelqu'un te dit que lui peut transformer, diversifier l'économie de la République démocratique du Congo en une seule année, en cinq ans, c'est qu'il ne connaît pas l'économie congolaise, parce qu'aujourd'hui, il y a les sociétés minières qui importe l'électricité de la Zambie.
Mais professeur Godet Mpoi, la RDC dans l'économie reste très dépendante du secteur minier. Ne reste-t-elle pas en situation de fragilité?
Oui, tous les secteurs sont toujours en situation de fragilité. Mais j'expliquais d'abord parce que souvent j'entends les gens parler de la diversification de la production. Ça ne se décrète pas. Il faut un courant stable parce que les collègues Bissa parlaient de Tabumbeki. Suivez ce qui se passe en Afrique du Sud. Le PIB sud-africain a baissé de 20%, tout simplement parce qu'aujourd'hui l'électricité n'est pas stable en Afrique du Sud. Donc, commençons d'abord par vider ces préalables, et pour ça il faut 35 milliards de dollars pour relancer Yinga. Donc ce sont des informations que j'ai données. Mais tout ce que je peux dire maintenant, c'est que ni que cet environnement sanitaire, géopolitique, très hostile à la République démocratique du Congo, on aurait pu en ressentir les effets, ne fait que de manière minimale. Mais maintenant, c'est cet environnement qui avale tous les efforts qui ont été fournis. C'est pourquoi la population s'est plaint. Mais retenons que ni que cette croissance, la situation aurait été pire. Et je voulais apporter une précision. L'augmentation de la production du prix n'a rien à voir avec l'hiver. Tout simplement parce que les sociétés ont amélioré leurs outils de production. Et la Chine, c'est le plus grand bénéficiaire de la guerre russo-ukrainienne. Elle achète aujourd'hui les carburants à bon marché et en Russie et en Iran. Elle a une forte demande des métaux rouges et c'est ce qui a fait que cette demande est très forte pour le moment. Mais ce que la population peut retenir, c'est que nous devons encore travailler davantage. Les chiffres qui ont été donnés par la mission préliminaire s'approche toujours de la réalité parce que la Banque centrale en avait déjà produit bien avant.
Professeur Godet Mpoi, je vais vous redonner la parole. Vous allez en parler dans votre conclusion tout à l'heure. Juste le temps de prendre ce dernier auditeur qui appelle depuis le Sud Kivu.
Jonas Buendo, activiste patriotique Sud Kivu, ville de Bukavu. La croissance économique en RDC est instable. Malgré en 2022, la courbe montre qu'elle était à 8,6%. Mais alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une rechute suite à la dépréciation des francs congolais vis-à-vis aux dollars américains et l'importation des produits de première nécessité à l'extérieur dont le prix nous est imposé. Tous ces aspects contribuent à la vulnérabilité de notre économie. Pour améliorer la situation de vie, nous prions que la RDC soit autonome à la production des produits de première nécessité et la bonne application des normes par le ministère des Finances et du budget.
Professeur Florimond Mouteba, brève réaction.
Bon, moi, l'auditeur
quand il parle encore comme les autres de peu d'effets de cette croissance qui ne concerne que le secteur minier d'ailleurs sur les vécu quotidiens de la population. Mais moi j'insiste encore une fois sur le changement de vision globale en matière de développement. C'est-à-dire que pour donner priorité au secteur pauvre, pour qu'on y arrive, pour qu'on donne l'importance qu'elle mérite au secteur agricole, parce que c'est de là que partirait un autre type de croissance. Parce que c'est des millions de Congolais qui, dans les milieux ruraux, ne vivent que de l'agriculture, mais alors vraiment c'est de l'agriculture, même pas d'un hectare, hein, c'est vraiment d'autosuffisance, etc. Alors que le secteur agricole aurait été cet autre genre ou cet autre bras de notre croissance qui allait venir donc promouvoir un développement dans lequel la population serait aussi le moteur, l'acteur et le bénéficiaire de ce développement-là. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'amélioration de la gouvernance du secteur minier, de sorte que c'est que les revenus de ce secteur puissent être dirigés vers les autres. Non seulement le secteur agricole, quand on parle de secteur industriel, pour que l'industrialisation soit développée de manière saine, elle devrait commencer d'abord autour de l'agriculture, l'approvisionnement du secteur agricole, en matériel, en équipement, en intra, la transformation, les premières transformations devraient être la transformation des produits agricoles.
Ce secteur agricole, professeur Florimond Mouteba, pourrait aider à maintenir cette croissance pour les prochaines années. Ça sera votre conclusion?
Oui, je pense que oui. Il faudra que vraiment on puisse penser à investir des milliards dans l'agriculture pour permettre non seulement d'avoir une croissance durable, non seulement une grande croissance, mais soutenable et durable, n'est-ce pas? Parce qu'elle sera basée, sera assise sur la participation de la population.
Merci, professeur.
Puis, voilà.
Allez-y.
Voilà.
Vous vouliez dire?
Non, j'ai dit qu'elle serait assise sur la passion de la population, ce qui est d'ailleurs le souci du président et de son parti, le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, ce sont ces gens-là d'abord. Ce sont ces millions de Congolais qui aujourd'hui sont exclus du marché, exclus de la croissance, etc. Ce sont eux.
Merci, professeur Florimond Mouteba. Voilà. Professeur Michel Bissa, que faire pour promouvoir une croissance plus soutenue et plus inclusive?
Merci, madame. Oui, effectivement, il faut diversifier, comme on l'a dit tout à l'heure, le secteur de production dans notre pays. Il faut fournir un effort d'aller faire le secteur de la transformation. La petite transformation agro-vétérinaire, agro-pastorale, ça peut être important. Il faut accroître les efforts de la mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses courantes en renforçant la chaîne de la défense, de la dépense et en mettant des garanties adéquates pour lutter contre tout ce qu'il y a comme corruption, surconsommation institutionnelle, ainsi de suite. Et pour y parvenir, on a parlé tout à l'heure des contraintes sécuritaires et politiques dans les pays. Cela requiert certainement des dépenses sociales supplémentaires parce qu'il y a une détérioration de la situation humanitaire, augmentation aussi de l'insécurité alimentaire, le nombre de déplacés internes, mais aussi l'angoisse électorale qui arrive avec un processus électoral qui laisse craindre des guerres ou des soulèvements à cause de son non-inclusivité. Tout cela montre que la croissance risque d'avoir des capacités difficiles d'absorption et de maintenir tout cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Rapidement,
je pense que la Banque centrale du Congo devrait rester vigilante et surtout proactive pour assurer la stabilité des prix, tout en continuant à constituer des réserves pour renforcer la résilience, aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe.
Merci.
Mais dans cela aussi, il faut améliorer le climat des affaires. Oui, madame?
Il faut conclure, professeur Michel Bissa. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission.
Je me souviens d'une phrase que le Quinois disait: Toliaka croissance était. Donc, fournissons l'effort que l'aspect sociologique, l'aspect du vécu quotidien de chaque jour soit ressenti au lieu des chiffres qui, en réalité, n'aboutissent pas dans le vécu quotidien du Congolais.
Merci, professeur Michel Bissa.
Je vous remercie. Le dialogue entre Congolais et Lingala prochainement, madame.
On va voir ça, professeur Michel Bissa. Professeur Godempoy, votre conclusion, comment maintenir cette croissance pour les prochaines années?
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'émergence passe par l'intelligence. En République démocratique du Congo, le meilleur profil n'a jamais été un atout. Le président de la République seul ne peut pas arranger la gouvernance dans un monde démocratique. La population doit réfléchir plusieurs fois avant de donner sa voix à un élu. Lorsque vous faites de tous les ivrognes et autres fumeurs des chambres des députés, il faut vous attendre à ce genre de choses. Parce que j'entends les gens qui se plaignent que le président reprend les mêmes. Mais ce sont les mêmes là qu'ont la majorité au Parlement. Donc, si nous voulons améliorer notre gouvernance, mettons l'intelligence en exergue et que la population apprenne à ne choisir que ceux qui ont les meilleurs profils.
Merci, professeur Godempoy. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Dona Madimba qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Assemoujangwe. Bob Land était à la mise en onde, présentation et coordination Kelly Nkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.